Bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations, de partage, d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Landry, comme vous savez tous, et je suis avec mon frère Franck. Comment tu vas, Franck?
Bonjour Landry, je vais très bien. Et toi-même?
Je vais super, super bien. Alors Franck, dis-nous, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour nos auditeurs? Parce qu'ils s'impatientent là.
Ah oui, c'est clair. Alors Landry, aujourd'hui, comme d'hab, je te propose et je te réserve un sujet brûlant. Un sujet d'actualité, un sujet qui fait la une aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va parler aujourd'hui d'un programme, exceptionnel et qui est très sélectif. Très sélectif, mais en même temps abordable. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons une personne qui a bénéficié de ce programme et qui nous fait l'honneur et l'amitié de partager avec nous son expérience. Alors Landry, je te propose qu'on laisse notre invité se présenter.
Bonjour Landry, bonjour Franck, comment vous allez?
On va super bien, et toi-même Christian?
Ça va très bien, ça va très bien. Bonjour à tous les spectateurs. Voilà, donc je représente. Alors, je suis Christian Bouman, je suis chef d'entreprise, je suis diplômé des études comptables supérieures de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. J'ai débuté ma carrière professionnelle en audit au sein du cabinet Ernst & Young en 2008. J'y ai passé 4 années, avant de rejoindre un autre cabinet de conseil en intelligence économique, où j'ai également passé 4 ans. 4 années qui ont été maillées par une année en détachement au Nigeria, où j'aime bien dire où ma fibre entrepreneuriale est née. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle Bespoke et qui est spécialisée dans la création de contenu audiovisuel et de contenu numérique, notamment la réalité virtuelle. Et comme Franck le disait, j'ai été bénéficiaire de la bourse Mandela Washington Fellowship au cours de l'année 2019.
Ok, ce qui est bien dit. Mais moi, j'aimerais très rapidement qu'on attaque notre sujet du jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est réellement le programme YALI, ou bien comme vous appelez le Mandela Washington Fellowship? Qu'est-ce que c'est réellement?
Alors, le programme YALI, à la base, hein, c'est une initiative du président Obama. C'est une initiative qu'il a créée en 2010, avec pour vision de créer un réseau actif de jeunes entrepreneurs, enfin de jeunes leaders africains, qui pourraient présider aux destinées de l'Afrique. Et ce programme-là est né comme ça, de cette vision-là. Et ce programme, il a plusieurs composantes, dont le flagship, le programme phare, le programme élitiste, qui est le Mandela Washington Fellowship. Donc voilà, c'est pour ça que souvent on entend parler de YALI, qui est finalement le programme général, et puis le programme spécifique qui est le Mandela Washington Fellowship. Mais à côté de ça, il y a d'autres programmes comme ce qu'on appelle les RLC, je pense que c'est Regional Learning Center. Donc ça, ce sont des programmes de développement toujours de leadership, mais qui se passent sur le continent africain, au niveau du Ghana, au niveau du Sénégal et d'autres pays. Et celui-là, le Mandela Washington Fellowship, qui lui est un programme en présentiel au niveau des États-Unis.
Wow. Voilà qui est un peu plus clair par rapport à... Parce qu'on entend souvent YALI, on entend souvent Mandela Washington Fellowship, et des fois, ça peut prêter à confusion. Mais je me demande, ce programme, dans ta présentation tout à l'heure, on ne voit pas forcément le lien entre ce programme et la comptabilité ou bien avec l'intelligence économique. Donc, ce qui m'amène à me poser la question, mais comment est-ce que tu as entendu parler de ce programme?
Alors, pour l'histoire, j'ai découvert le programme YALI et le Mandela Washington Fellowship en particulier en 2015. C'était à mon retour du Nigeria, je revenais fraîchement du Nigeria, et un ami m'en a parlé. Il m'a dit tout de suite, mais voilà ce qu'il a découvert, qu'il y a un programme qui existe depuis 2010, et mieux structuré depuis 2014 avec la création du Mandela Washington Fellowship. Et que, bon, voilà, vu que je lui avais partagé, moi, mon ambition de bientôt me lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein, il m'a dit oui, ça pourrait être un tremplin pour déjà améliorer mes connaissances dans le volet entrepreneurial et puis voilà, développer tout ce qui est aspect leadership, tout et tout. Donc c'est comme ça que j'entends parler pour la première fois du Mandela Washington Fellowship.
Okay. Donc tu entends parler de ce programme par l'intermédiaire d'un ami, mais bon, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton processus, le processus d'obtention de cette bourse?
Alors, ça se déroule en trois phases essentiellement. Il y a une phase on va dire de dépôt de dossier, une phase de dépôt de dossier un dépôt de dossier qui se fait en ligne, hein, essentiellement. C'est un questionnaire à remplir, un questionnaire qui va poser des questions sur sur le parcours professionnel, sur le parcours académique, sur le projet qui est porté, hein, au travers de le projet qui est porté et qui est soumis au travers de cette inscription à ce programme-là. Et également d'autres questions qui permettent de cerner globalement comment enfin, des valeurs de leadership ont été exercées ou s'exercent tous les jours dans tes activités. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et c'est un processus qui est entièrement en anglais. Donc déjà, à ce niveau de soumission de dossier-là, tout se fait en anglais. Donc on remplit ce questionnaire, on soumet sur la plateforme. Et voilà, on attend en espérant être sélectionné pour le second tour. Le second tour, il consiste à une évaluation du niveau en anglais. Donc, c'est un test fleuve qui dure presque 3 heures, 3 heures, 4 heures de temps, où on évalue tes capacités de compréhension de la langue anglaise. Donc, c'est un test écrit, avec des questions à choix multiples, avec des audios qui sont passés, des questions qui sont passées, des textes à lire, à tout de suite analyser, pouvoir répondre à des questions. Donc ça, c'est le deuxième niveau du processus. Et le troisième, pour les personnes qui sont shortlistées après ces deux premières phases-là, ces personnes-là passent à un entretien final, ou devant un collège de presque une dizaine de personnes, selon les années, ou entre 5 et 10 personnes, elles viennent présenter et défendre, hein, le projet qu'elles portent, l'ambition qu'elles portent de participation à ce programme-là.
Je
Voilà,
suppose
donc
que
c'est
cet entretien en anglais.
totalement, tout le processus est en anglais, parce que le programme, il est fait de façon présentielle aux États-Unis. Donc forcément, ils s'attendent à ce que les personnes qui seront sélectionnées pour le programme aient quand même un niveau de compréhension, un minimum, pour ne pas être complètement perdues, hein, une fois qu'elles arriveraient aux États-Unis.
Oh là 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 là. Oh là là, je pense qu'il va falloir qu'on redouble d'efforts sur la English Day. Parce que, tu as compris, l'application en anglais, il y a un test d'anglais après, et ensuite, il y a également un entretien en anglais. C'est un véritable parcours du combattant. Félicitations, Christian, pour avoir réussi avec brio tout ce parcours qui, vraiment, à te l'entendre dire, n'a pas l'air du tout aisé, surtout pour des francophones qui n'avons pas toujours, pour nous qui n'avons pas toujours l'occasion de pratiquer l'anglais. Et c'est pour ça également qu'il est très intéressant d'avoir des opportunités à travers les English Day ou bien même à travers la lecture d'articles en anglais de s'exercer là-dessus, sur cette langue. Mais Christian, dis-moi, comment est-ce que tu t'es préparé?
Non, je voulais dire que tu le dis très bien, hein, tu le dis très bien, parce que effectivement, il faut trouver des occasions de pouvoir, au-delà même de ce programme-là, de pouvoir développer aujourd'hui les capacités linguistiques, hein, notamment celles de la langue anglaise, parce que au-delà du programme aujourd'hui, la langue anglaise, c'est un passeport pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent, hein, au travers là de ce programme YALI, mais de beaucoup de programmes, mais qui ne sont pas accessibles parce que il manque généralement la capacité linguistique, notamment en anglais. Donc, je pense que vous faites un travail formidable, je le vois sur la plateforme, en termes de sensibilisation, hein, à l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, moi, je vous félicite pour ça et je vous encourage fortement.
Merci pour les encouragements, Christian. Tu l'as si bien dit. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es préparé pour affronter ce parcours de combattant et le réussir.
Alors, je dirais que peut-être moi j'ai quand même bénéficié un peu de mon parcours, parce que déjà en étant avec le parcours professionnel que j'ai pu avoir, que ce soit au sein du cabinet Ernst & Young ou plus tard, j'ai eu à travailler sur des dossiers de clients complètement anglophones, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Donc j'ai été quand même exposé à la langue anglaise dans le cadre de mon travail et je le disais en intro lorsque je me présentais, j'ai eu également l'opportunité de passer plusieurs mois au Nigeria en 2014 et 2015, presque un an, donc ça m'a également aidé à développer mes capacités de compréhension de la langue anglaise. Même si finalement ce niveau en anglais que j'avais acquis jusque-là, qui est un peu le West African English, il est utile, mais il est utile, il m'a été beaucoup utile, il m'a été beaucoup utile dans le cadre du processus, mais on pourra en parler plus tard lorsque vous arrivez sur le continent américain, c'est autre chose, hein, c'est autre chose complètement. J'ai beaucoup d'anecdotes que je peux partager à ce niveau-là. Mais pour revenir à la question que tu me posais, Franck, effectivement, moi, vu que justement, j'avais pas forcément, je partais pas de zéro, hein, en termes d'anglais, donc c'était pas pour moi la plus grosse des difficultés. Je sais que bien sûr, c'était une difficulté, mais je sais que généralement, certaines personnes partent beaucoup plus loin. Alors, donc pour moi, il a fallu structurer quand même un dossier qui pourrait susciter l'intérêt. Donc, il fallait pouvoir mieux structurer les idées que j'avais, mieux développer, mieux présenter le projet que je portais. Et voilà, surtout lors de l'entretien final, être capable de défendre, hein, de présenter de façon convenable et défendre, hein, mes opinions face à ce jury qui était devant moi. Mais après, ça fonctionne comme un concours, hein. On retient à la fin les meilleures personnes. Donc, les personnes qui ne sont pas retenues ne sont pas forcément qu'elles ne méritent pas d'y être, hein, mais simplement parce qu'il y a un quota de personnes à sélectionner. Généralement, on prend entre 10 et 15 personnes en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Donc, finalement, il peut y avoir 30 personnes qui sont bien, mais il faut choisir 15 personnes. Donc, c'est un peu comme un concours. Donc, à la fin, là où on met le seuil, toutes les personnes qui sont plus bas, elles sont automatiquement éliminées. Donc, oui, voilà, il y a eu ce travail, nous, enfin, que moi j'ai pu faire pour vraiment présenter un dossier assez solide, hein, et puis faire beaucoup d'entraînement. Faire beaucoup d'entraînement parce que enfin, c'est comme un entretien, c'est vraiment comme un entretien, le test final. Pour revenir, hein, je vais dire quoi? Au premier tour, au niveau du premier tour, c'est vraiment comment structurer ses idées. Au niveau du dossier d'inscription, comment structurer ses idées, comment proposer quelque chose de façon très claire et qui pop out, que lorsque les gens vont regarder, ils seront tout de suite séduits par l'idée que vous portez, par votre profil, par votre background. Ça, c'est à ce niveau-là qu'ils font ici que j'essaie d'insister lors de la première étape du processus. Au niveau de la deuxième étape, qui est le test anglais, bien sûr, comme j'avais déjà moi, je baignais déjà dans un environnement un peu anglophone et que j'avais mes habitudes, mes routines d'apprentissage de l'anglais, ça n'a pas été forcément la phase la plus compliquée pour moi. Mais je conseillerais à des personnes de justement, si elles ont l'ambition de participer à ce programme-là, qu'elles s'y mettent dès maintenant, hein, de développer autour d'elles un environnement d'apprentissage langage linguistique. Donc, c'est regarder CNN, c'est de regarder des contenus d'intérêt, donc des films, du sport, mais en langue anglaise. Ne serait-ce que pour développer la capacité d'écoute et de compréhension de ce que les choses... Parce que l'oreille s'habitue à une nouvelle langue. Et il y a un processus inconscient dans l'apprentissage d'une langue. On pourra en parler un peu plus tard, lorsque je vous parlerai de mon expérience linguistique lorsque j'arrive aux États-Unis. Et pour la troisième phase, moi, ma préparation a consisté à vraiment essayer d'anticiper au maximum les questions qui pourraient m'être posées et avoir le vocabulaire, la structuration de phrases pour répondre convenablement, vu que c'est en anglais. Je pense qu'il y a certaines improvisations qui peuvent être faites tant que c'est dans la langue française qui sont souvent difficiles à faire en anglais parce qu'on peut être limité dans le vocabulaire. Donc, le tout, pour moi, la clé, c'était d'essayer d'anticiper au maximum les questions qui pourraient m'être posées et les déclinaisons de ces questions-là afin de, lorsqu'elles me seraient posées, de pouvoir y répondre convenablement.
Ok, c'est super, c'est tellement bien dit. Et je pense que tu as touché un peu à la question que j'avais en tête. Hein. C'est de savoir quelle a été ta plus grande difficulté durant tout ce processus de sélection.
Alors, je dirais que c'est la première étape qui... J'ai du mal à peut-être à trouver comment traduire la difficulté de cette première étape-là, parce que peut-être que le jury peut paraître être ce qui est le plus stressant, mais la première étape, c'est une étape où vous n'avez pas votre destin entre les mains. Tu n'as pas ton destin entre les mains. Tu as présenté tes idées, tu les as couchées sur papier. Peut-être que la personne qui va lire ne va pas forcément comprendre où est-ce que tu veux aller. Elle va peut-être pas comprendre le sens que tu entends d'orienter, alors que lors de l'entretien, lors de la phase finale, tu as l'occasion de présenter et de défendre. Là, c'est un document que tu remplis, et tu dois être vraiment, tu vois, on the point dès le départ, parce que si tu as manqué là, tu seras tout de suite éliminé, tu n'auras aucune chance après de passer le test d'anglais ou arriver à l'entretien final. Donc pour moi, la phase la plus stressante a été cette phase-là, parce que je ne savais pas à quelle sauce je serais mangé. Est-ce que le projet que je portais allait être jugé pertinent? Parce que pour moi, il était pertinent, mais est-ce que les personnes qui l'auraient analysé auraient jugé ça pertinent par rapport au contexte dans lequel on se trouve? Donc, il fallait réfléchir un peu à la place des personnes qui vont analyser ces dossiers qu'on a envoyés. Et puis, imaginez également le nombre de personnes qui postulent. Hein. Presque 1000 personnes en Côte d'Ivoire qui postulent à un tel programme. Il faut quand même que... le dossier sortir un peu du lot pour susciter l'attention et être retenu pour les phases suivantes. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment clé. Une fois que on est retenu pour cette phase-là, en tout cas pour moi, c'était la phase qui était la plus critique, parce qu'après j'étais quand même à l'aise sur la phase de l'anglais. Hein, pour le test écrit, et après pour l'entretien, il y a tout le stress qui va avec, bien sûr, mais bon, c'est aussi l'occasion de pouvoir présenter, défendre son projet et espérer être sélectionné, quoi. Mais il y a beaucoup plus d'incertitudes, je dirais, lors de la première étape du processus, ne serait-ce qu'à cause du nombre de postulants, et après, parce qu'aussi des personnes, ils sont astreints à prendre un quota de postulants, quoi.
Quand on imagine un peu tout le niveau de la compétition, parce que si on a plus de 1000 postulants pour à la fin sélectionner entre 10 et 15 personnes, donc c'est entre 1 et 1,5% de tous ceux qui ont postulé, franchement c'est pas du tout évident. Et après on peut avoir également des gens qui viennent de partout, donc j'imagine. Et je me demande justement, lorsque on a fini tout ce parcours si compliqué, si stressant, si harassant et difficile, comment est-ce que ce programme-là se vit de l'intérieur ? C'est-à-dire, lorsque tu arrives aux États-Unis, et que tu dois faire des coups. Comment est-ce que ça s'est passé cette partie-là?
Alors, enfin, moi, pour répondre à cela, je pense que avant même d'arriver aux États-Unis, hein, le programme il commence avant d'arriver aux États-Unis, parce que dès que tu es retenu, tu sais que tu rentres un peu dans la cour des grands. Tu rentres dans la cour des grands parce que tu vois, lorsque tu observes toute la minutie qui est suivie pour préparer le départ, hein, des boursiers pour les États-Unis, quand tu vois comment est-ce que la mise en relation avec l'université qui doit te recevoir est faite, quand tu vois également les nombreuses réunions de préparation qui se font déjà sur Abidjan au niveau de l'ambassade pour préparer cela, tu vois que le programme déjà il commence même avant d'avoir pris l'avion pour se retrouver aux États-Unis. Donc il y a toute cette phase là de préparation. Il y a la phase d'abord de vraiment de où tu reçois d'abord la nouvelle. Généralement ça vient autour de février, la mi-février, début février, mi-février, où tu reçois la nouvelle, ton courrier pour te dire officiellement que tu es retenu. Donc toute l'excitation qui va avec.
C'est
Après
clair.
il y a les démarches administratives qui commencent, mais également la mise en relation avec l'université, l'université, la gestion vraiment, tout est géré. Enfin, tout est prévu, tout est anticipé, tout est géré. Il y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et vient le jour où on prend l'avion pour aller aux États-Unis. Donc c'est 700 personnes, en tout cas moi. En 2019, qui ont quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis. Donc 700 jeunes Africains qui quittaient de divers pays, de presque une trentaine, une quarantaine de pays africains qui se sont rendus aux États-Unis. Tu es allé sur quelques jours. Et t'imagines, enfin, toute la minutie qu'il a fallu pour pouvoir gérer ne serait-ce que l'aspect logistique, parce que
C'est
c'était
ça.
des avions à booker. C'était s'assurer que tout le monde arrive à bon port, que tout le monde arrive dans son aéroport de transfert, parce que les États-Unis sont hyper grands, donc souvent c'est des gens ont fait cinq escales
Wow.
pour arriver à leur, oui, au lieu final. Au lieu final, moi personnellement, en prenant l'avion ici, on est arrivé à Paris. De Paris, on a pris un autre avion pour atterrir à Chicago. Et après Chicago, on a pris un autre avion pour atterrir. Ah, oh, ça m'échappe. Et ensuite, on a pris un bus, enfin des véhicules en tout cas qui sont venus nous chercher pour rejoindre la ville, parce que moi j'étais hébergé à Iowa City, c'est au centre des États-Unis plus ou moins. Et
D'accord.
donc on a pris de là, on a pris notre bus, nos véhicules, des véhicules sont venus nous récupérer pour nous convoyer sur la ville et notre cité. Voilà. Donc il y a une partie qui est complètement académique dans le programme. Le programme il a plusieurs parties. Un volet académique, hein, avec un cursus de formation en leadership qui est commun finalement à toutes les personnes qui viennent participer au programme. Donc toutes les 700 personnes qui sont arrivées ont reçu ce même cursus de formation autour du leadership. Et à côté de ça, en fonction de l'orientation de chacun des boursiers, que ce soit sur le volet entrepreneurial, parce qu'il y a trois tracks, un peu des orientations. Il y a civic engagement, il y a public management et il y a également business entrepreneurship. Donc moi j'étais dans le volet business entrepreneurship. Donc nous sur l'université qui nous recevait, donc on est réunis à peu près à 25, entre 20 et 25 dans différentes universités aux États-Unis. Donc l'université qui me recevait accueillait des personnes pour le track business entrepreneurship. Donc on a passé à côté de nos formations leadership, mais également du temps à détricoter tous les projets que nous portions, à revisiter la vision que nous avions derrière chacun des projets. Donc c'était juste exceptionnel. Donc c'est-à-dire on a un peu comme remis à nu tout ce qu'on connaissait sur le plan d'aventure entrepreneuriale. On est reparti depuis les fondamentaux. On a appris de nombreuses nombreuses choses. On a acquis de vrais a vraiment de la connaissance, quoi. On a acquis de la connaissance. Et à côté de ça, il y avait également beaucoup, enfin, on va dire beaucoup d'événementiels. On avait beaucoup d'événementiels. À côté de ça, il y a tout le volet également. Il y a beaucoup d'activités également ludiques. Hein. Il y a eu beaucoup d'activités ludiques, au cours desquelles également on apprend beaucoup de choses. On apprend la culture aussi des États-Unis. On participe à des événements. Moi, je me rappelle avoir participé à des matchs de baseball qui étaient un peu. Voilà, que j'avais du mal à comprendre. Parce que, mais aux États-Unis, c'est l'un des sports rois. Pour s'immerger complètement dans la culture, parce que l'apprentissage, c'était pas seulement le volet académique, mais au contact des hommes, hein, au contact également de la culture, on a appris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup d'événementiels, hein, organisés, des rencontres avec le milieu professionnel des villes dans lesquelles on se trouvait, les chambres de commerce, les associations. Il y avait beaucoup d'événementiels, en tout cas privés, avec même les institutions publiques qui étaient organisées. Et au cours de ces sessions-là, au cours de ces réunions, de ces événements, on apprenait également beaucoup de choses, hein, sur le volet business purement, mais également sur également la culture et tout ce qui se passe aux États-Unis. Et il y avait également on va dire des occasions de développer, hein, son réseau, hein. Donc l'université dans laquelle moi je me trouvais, University of Iowa, était vraiment déterminée à faire en sorte qu'on reparte tous avec une idée d'abord claire de nos différents business, mais aussi essayer de nous aider à trouver des partenaires américains avant de descendre, ou bien des personnes qui travaillaient dans le même domaine avec qui on pouvait avoir des échanges de bons procédés, ou bien conclure des partenariats. Donc il y avait tout ce volet-là qui s'est passé. Et ça a duré 5 semaines. Et comme je le disais, il y a le cursus qui est commun à tout le monde, mais aussi il y a des activités qui sont spécifiques à chaque université. On a fait beaucoup de visites d'entreprise, on a rencontré vraiment du monde, hein. Et comme je le disais, il y a toujours aussi ce côté très ludique de la chose. Ce côté très ludique de la chose. Et après ces 5, 6 semaines-là, on s'est tous retrouvés, hein, tous, dans toutes les universités où on s'est tous retrouvés à Washington, D.C. À D.C. On s'est tous retrouvés, on était plus de 700 dans un grand hôtel de Washington D.C., un hôtel 5 étoiles, on était complètement à l'aise, où il y a eu pendant 4 jours, hein, des conférences, des meetings business, où on avait l'occasion de développer encore, de faire beaucoup de business meeting, de rencontrer du monde, de développer son réseau, de rencontrer le monde professionnel, les institutions publiques. Et voilà, c'est la seule fois, hein, au cours du séjour où on s'est tous retrouvés tous ensemble. C'était juste impressionnant, hein, de voir 700 personnes dans un même hôtel, et finalement on se marchait pas. On ne marchait pas forcément là-dessus, mais c'est pour vous dire, hein, donner un peu la dimension de toute la logistique qu'il faut organiser autour de ça. Voilà. Donc après ça, il y avait la possibilité pour les personnes qui le souhaitaient de rester un peu plus longtemps, ne serait-ce que pour poursuivre les discussions autour de partenariats qu'elles avaient commencé, voyager, voir du monde, discuter avec des personnes qui sont dans le même domaine. Donc il y avait une aide un peu une possibilité en tout cas de continuer à essayer de développer, à faire du business développement avant de revenir en Afrique. Et pour les personnes qui le désiraient, pouvaient, et c'est ce qui est en principe prévu même. Beaucoup sont revenus directement au bout des 6 semaines dans leur pays respectif. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé globalement.
Wow. Ça donne beaucoup de sensations parce que quitter l'Afrique, venir découvrir les États-Unis, venir à Iowa, qui est vraiment un état assez, au niveau du centre, un état assez rural, je peux dire, parce que. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis ton expérience au niveau de l'université, après vous tous vous retrouvez à DC, la capitale. Waouh, ça montre que ça veut dire que vraiment il y a un véritable budget qui est mis à votre disposition pour gérer tout ce qui est logistique et autres. Mais là, dans tout ce que tu as dit qu'il y avait assez, il y avait du ludique, il y avait de l'apprentissage, et ça montre que c'était à la fois un programme concentré et accéléré en même temps. Parce que 6 semaines pour apprendre tout ça et en même temps pouvoir s'amuser, découvrir l'Amérique, aller voir les matchs de baseball et autres, c'est vraiment pas facile. Donc moi, je veux savoir, est-ce que tu peux nous partager une expérience, une belle expérience que tu as eue? Je sais que tu en as eu plein, mais bon, choisis la meilleure que tu aimerais nous partager et que tu aimerais partager avec les autres.
Ce sera très difficile, hein, parce que j'ai eu de nombreuses premières quand j'étais aux États-Unis. je sais pas laquelle des premières retenir, mais je sais, par exemple, j'ai tiré pour la première fois, j'ai fait du boat ride pour la première fois, j'ai failli sauter en parachute pour la première fois, mais ça s'est pas fait au dernier moment.
Oh là là, donc j'ai eu beaucoup de... Donc,
pas fait. Enfin pour nos auditeurs, quand il dit qu'il a tiré pour la première fois, c'est-à-dire qu'il a tiré une arme à feu pour la première fois.
Oui.
Parce que je pense que...
J'étais dans un état où justement le portable il est autorisé et justement on a été envoyé dans je descends de tir pour découvrir, parce que ça fait partie de la culture aussi américaine. Donc c'était une expérience vraiment assez exceptionnelle. Mais si je dois retenir finalement peut-être une expérience particulière, et moi qui est peut-être mon key takeaway de ce programme-là, c'est finalement être au contact de ce melting pot, d'entrepreneurs africains, des personnes brillantes qui venaient de pays différents. L'université où j'étais, on était 25 jeunes Africains qui venaient de 19 pays différents, depuis l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Ouganda, le Nigeria, le Ghana, le Côte d'Ivoire, l'Éthiopie. Voilà, pour vous montrer un peu la diversité de nationalités qui étaient représentées et qui sont aujourd'hui, enfin, tous ces esprits brillants là qui se distinguent, qui sont de véritables leaders dans leur pays et qui se distinguent par leur travail, par leur connaissance. Avoir l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience là avec eux, c'était pour moi, c'est une vraie richesse, hein. C'est peut-être la chose que je retiens le plus, parce que c'est aujourd'hui c'est comme une famille, hein. C'est comme une famille aujourd'hui. Je connais du monde dans plus de 19 pays en Afrique. Je connais du monde, mais vraiment des personnes que j'ai pu côtoyer pendant quelques 6 semaines, d'autres plus, et avec qui je suis toujours en contact. Également, ces personnes-là que j'ai eu à rencontrer, même au sein, lorsque j'étais aux États-Unis, des familles américaines que j'ai rencontrées aujourd'hui, avec qui je suis toujours en contact. Je pense que si je dois retenir ne serait-ce qu'une seule chose de ce programme-là, je dirais justement l'exposition que cela m'a donnée à ce melting pot de personnes, de cultures différentes, avec des backgrounds différents, mais qui étaient là et qui se sont enrichis mutuellement, quoi.
Ouais, je pense que c'est vraiment très clair, vraiment très clair. Bon, tu sais ce qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire, hein, on dit que relation est mieux que diplôme. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais connaître des personnes dans 19 pays d'Afrique, effectivement, c'est pas évident. Et c'est sûr que ça aurait été jamais possible si tu étais resté ici en Côte d'Ivoire. Je me dis donc que ça fait partie des bénéfices que tu as tirés du programme, évidemment, par rapport au contact que tu as eu avec toutes ces personnes-là. Mais quels sont les autres bénéfices que tu as pu tirer de ce programme? Tout à l'heure, tu as parlé de takeaway. Qu'est-ce que tu as pu tirer de ce programme à la fin de ces 6 semaines, ou bien à la fin du programme aux États-Unis et jusqu'à présent, si possible?
Ce qui me vient là tout de suite en tête, d'abord, mon niveau en anglais s'est considérablement amélioré. C'était l'un de mes objectifs en partant, hein, parce que je disais, j'avais un certain niveau, que lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que mon anglais, il était moyen. Pourtant, ici, j'avais l'impression que j'étais presque bilingue, mais en arrivant aux États-Unis, je me suis rendu compte que j'avais un niveau en anglais qui était moyen, que ce soit en termes de compréhension, également capacité à pouvoir parler de façon fluente. Être là, enfin, immergé complètement dans un environnement purement anglophone, Le démarrage a peut-être a été plus ou moins difficile, mais vu que j'étais exposé permanemment à la langue, il y a eu enfin, cet apprentissage conscient et inconscient en même temps qui, arrivé à un moment, a dû déclencher quelque chose parce que c'est juste magnifique. Hein, et plusieurs personnes m'ont partagé la même expérience hein, qui, lorsqu'elles arrivent, il y a toujours peut-être ce retard à l'allumage. Où certaines personnes parlent et tu comprends peut-être 70%, 80% de ce qu'elles disent. Et quand tu parles, tu continues à réfléchir en français, traduire en anglais avant de répondre. C'est compliqué. Et dans le processus, à un moment donné, il y a quelque chose, c'est comme si, il y a un snap, un claquement de doigts, et les choses commencent à venir de façon automatique. Donc c'est juste pour conforter le fait que l'apprentissage, il se fait de façon consciente, mais également inconsciente. Donc, il faut jamais négliger hein, de s'exposer toujours à un environnement anglophone, même lorsqu'on pense qu'on n'est pas en train d'apprendre, mais qu'on ne comprend rien, parce qu'il y a le processus interne également qui est en route, qui est en phase et qui donne également de bons résultats. La deuxième chose de ça, je l'ai un peu décrit précédemment, cette opportunité m'a vraiment permis d'épaissir finalement mon réseau. Hein, je me suis créé. Un réseau fort d'amis, je veux dire d'amis, de connaissances, de partenaires, de personnes aujourd'hui, même par rapport à mon business, des personnes aujourd'hui, des référents que je peux appeler par rapport à des choses. Je vois la crise du Covid là a freiné la matérialisation de certains de ces partenariats, mais ça a été vraiment pour nous une véritable opportunité de créer ce réseau-là, un réseau qui peut attirer, qui peut produire beaucoup de choses positives pour mon business, mais également pour moi-même, mon propre profil, pour ma vie personnelle. Voilà. À côté de ça, je le disais, enfin, peut-être c'est assez spécifique à mon université, mais les autres universités, surtout celles qui sont concentrées sur le volet business entrepreneurship, l'offrent également d'une manière ou d'une autre. Nous, la formation, on a complètement détricoté nos projets, tout et tout. Moi, je suis revenu avec une vision complètement différente de mon entreprise, de ce que je voulais faire, tu vois, au travers de ce business-là. Donc, on avait déjà commencé, nous, à travailler sur les questions de réalité virtuelle, mais je ne savais pas comment orienter les types de contenus qui auraient pu retenir l'attention. Mais tout cela, j'ai pu mieux le cerner, mieux comprendre les besoins hein, des marchés que je visais. Et aujourd'hui, de retour à là, adapter notre vision vraiment à cela. Mais c'est vraiment une ouverture d'esprit. Qui a été possible au travers de ce programme-là. Et comme je disais, ça a été aussi une opportunité de beaucoup de premières, beaucoup de choses que j'avais jamais faites, que j'ai pu faire et qui enrichissent ma culture personnelle, beaucoup de choses que j'ai apprises. Et j'étais déjà moi-même passionné de politique américaine avant de participer à ce programme-là. Mais je le suis encore davantage parce que voilà, ça, j'ai eu cette ouverture d'esprit-là, d'être confronté à cette culture que j'ai beaucoup aimée. Et il y a beaucoup de choses voilà, que je ne connaissais pas au niveau des États-Unis que désormais je connais. Je suis assez familier de beaucoup de choses. Voilà. Et peut-être au-delà de ça, il y a le réseau que j'ai construit là-bas, mais il y a le réseau également ici parce que voilà, ce projet-là, ce programme qui est piloté ici en Côte d'Ivoire par l'ambassade des États-Unis, c'est un réseau également local, un réseau local de personnes, de toutes les personnes ayant participé au même projet, donc tout l'alumni du programme. Qui également, c'est un réseau également qui est accessible. Et même tous les alumni de tous les programmes hein, internationaux gérés par les États-Unis, c'est un autre réseau également qui est accessible. Donc il y a le réseau qui a été créé aux États-Unis, mais il y a le réseau également local autour des structures comme l'ambassade, l'USAID, beaucoup de structures, beaucoup d'intérêts américains dans la zone. Donc, ce sont des opportunités généralement, enfin, pas appliquées directement à moi, mais opportunités de travail, opportunités de projets à gérer, opportunités de financement, opportunités de subvention, opportunités business qui sont ouvertes directement en ayant participé à ce programme-là.
On avait aussi reçu une lauréate du YALI qui, après le YALI, s'est retrouvée en Angleterre via la bourse Chevening. Et voilà, c'est
Oui.
une des opportunités aussi que ce programme ouvre
Oui, tout à
aux
fait.
différents lauréats.
Oui, je peux faire le même témoignage parce que moi, étant aux États-Unis, ce programme a apporté beaucoup de crédibilité à mon profil. Donc, après les États-Unis, en revenant des États-Unis, j'ai été invité pour un sommet d'entrepreneurs francophones en France. Mais lorsqu'on regarde sur mon profil, je pense que le fait d'avoir participé au Mandela Washington Fellowship a beaucoup contribué justement à mettre de l'intérêt sur mon profil. Voilà. Donc, et puis aussi à valider que quand même finalement ce profil-là, il est suffisamment bon pour participer à ce programme-là. Donc, c'est pour dire,
C'est ça.
voilà, ça ouvre de nombreuses opportunités. Et même, on se rend compte, parce qu'on se rend compte qu'il y a de nombreuses opportunités, mais qu'on ne connaissait même pas. Parce que c'est ça, généralement ici, on périt parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas la connaissance.
On n'a pas
C'est dans le
l'information.
formation, c'est dans le monde francophone, mais c'est au-delà, dans le monde anglophone. On se fixe des barrières, on a toujours l'impression que, bon, voilà, il n'y a pas d'opportunité. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent dans le volet, sur le volet bourse, tout et tout et tout. Et participer à un tel programme t'ouvre les yeux par rapport à tout ce qui se trouve comme opportunité et tout l'écosystème des bourses d'autres pays. Mais voilà, il y a vraiment une vraie ouverture, quoi.
Exactement, exactement.
Vraiment.
Ça, il y a vraiment énormément d'opportunités après le YALI. Mais malheureusement, nous tendons vers la fin de notre podcast. Mais j'aimerais que tu essaies de donner quelques conseils à tes cadets, c'est-à-dire les futurs YALI, d'une part, et aussi à ceux qui sont découragés parce qu'ils ont tenté ce programme-là plusieurs fois. Et à plusieurs reprises, ils ont échoué. Donc, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour essayer de les remettre sur le droit chemin, pour leur dire de ne pas perdre espoir, pour leur dire que c'est toujours possible? Et comment est-ce qu'ils pourraient réorienter, par exemple, leur projet?
Alors, moi, je veux dire ils n'ont rien à perdre, mais ils ont tout à gagner, à persévérer. Il n'y a rien à perdre, en fait. Il n'y a rien à perdre parce que, voilà, le découragement, il peut avoir sa place pendant un moment, mais après, on connaît les balises autour de ce programme-là. Les balises, la principale balise, c'est la balise de l'âge. Après 35 ans, c'est plus possible de participer à ce programme. Donc, tant qu'on est dans les clous, il faut pas arrêter de participer. Moi, je connais des personnes qui ont vraiment qui ont trimé, mais qui ont fini par le faire, qui ont fini par être retenues. Des personnes qui ont postulé 4 fois, qui ont postulé 5 fois avant d'être retenues. Là, chaque fois que tu postules, peut-être la première fois tu as été ton dossier même n'a pas été retenu. La seconde fois, peut-être c'est au niveau du texte anglais. Il n'y a pas de prescription, comme il n'y a justement pas d'interdiction de postuler encore et encore, mais tu acquiers à chaque fois de l'expérience pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés que tu avais, que tu as eues précédemment, peut-être lors de l'édition précédente. Donc il y a tout à gagner à inciter à persévérer, parce que peut-être également tu n'as pas été retenu parce que l'année précédente où tu avais postulé, peut-être c'était beaucoup plus compétitif que cette année, hein. Donc moi je crois que au-delà de tout, que c'est pas forcément les meilleurs qui sont choisis. Ce serait trop prétentieux, parce que je vois des leaders qui sont juste incroyables, mais qui n'ont pas fait ce programme-là et qui ont souvent même postulé, qui n'ont pas été reçus. Mais c'est un concours de circonstances, un concours peut-être de présentation, peut-être d'un peu plus d'habilité au niveau de la langue qui permet à certains d'être choisis
Non. Donc il faut toujours persévérer et apprendre de ses erreurs. Parce que si à la fin, on a été éliminé une première année au niveau du test anglais, il ne faut pas lâcher. Oui, il ne faut pas lâcher. Et si c'était au niveau du dossier, il faut peut-être approcher des personnes qui ont déjà été reçues pour être coachées, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vraiment bien présenter, parce que c'est l'idée, le projet que je porte qui est en lui-même qui est mauvais, ou c'est ma manière de le présenter. Est-ce que c'est... Voilà, il faut faire un vrai diagnostic, il faut une vraie analyse à froid de l'échec, et puis essayer d'avancer, et puis d'aller de l'avant sans jamais se décourager, jusqu'à ce que la barre, est même... enfin, jusqu'à ce que peut-être on ait d'autres opportunités sur d'autres programmes. Ou bien qu'on a atteint les objectifs qu'on veut atteindre hein, au travers de ce programme-là, parce que aussi en partant, chacun a plus ou moins ses objectifs. Donc voilà, si je ne peux pas accomplir mon objectif sans passer par là, ben écoute, je vais peut-être pas essayer 10 fois, quoi. Donc voilà, il faut être bien conscient de ça, mais si un objectif, si enfin la réalisation de mon objectif passe toujours, peut passer toujours par ce programme-là, il faut jamais arrêter d'insister et essayer à chaque fois de faire mieux. Maintenant, après, l'idéal, ce serait de réussir du premier coup, hein, enfin au premier essai, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais voilà, ça demande également de la préparation. Et la préparation, c'est pas lorsque le concours, enfin, les applications sont ouvertes. C'est dès à présent. C'est lorsque lorsque vous finissez d'écouter ce podcast-là que déjà il faut entamer la phase de préparation. Réfléchir déjà. Enfin, si on sait qu'on a des lacunes en anglais, essayez tout de suite de développer, de venir s'inscrire sur la plateforme de l'éducation, l'observatoire de l'éducation, où il y a des English Day, voir toutes les ressources qu'on peut avoir en anglais, créer son environnement anglophone, écouter maintenant CNN, BBC à la radio, sur YouTube, se familiariser vraiment avec l'écoute de la langue anglaise, essayer prendre la littérature anglaise, parce que ça permet d'améliorer beaucoup la grammaire. La littérature anglaise, anglophone. Donc, il y a tout ça. Il y a ce sacrifice également, cet investissement qu'il faut faire pour préparer. Et si, enfin, on a déjà une idée claire du type de projet qu'on veut porter, peut-être là, actuellement, les applications sont pas ouvertes, mais on peut même approcher des personnes qui ont déjà participé à ce programme, leur demander, mais qu'est-ce qu'ils ont posé, comment est-ce que... Voilà, pour déjà anticiper. Déjà anticipé, parce que à la fin, si vous sollicitez les gens lorsqu'il reste une semaine avant le truc, peut-être que les gens n'ont pas le temps de regarder, de vous coucher convenablement. Pourtant, ce sont des choses qui peuvent être préparées bien avant, plusieurs mois à l'avance, pour vous donner toutes les chances d'être sélectionné. Voilà. Mais puis, si malgré tous ces efforts, c'est pas le cas, l'année suivante ou bien l'année d'après, vous aurez toujours l'occasion de pouvoir postuler. Donc, you have nothing to lose.
Je pense que là, tu nous as donné vraiment les paroles que tout un chacun souhaiterait entendre, parce que on se rappelle que Winston Churchill a dit, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Que moi je retiens de ce que tu viens de dire, Christian, c'est que vraiment la seule barrière qui est en griffe insurmontable, c'est la barrière de l'âge, parce qu'on va pas naître une seconde fois, ça, malheureusement. Mais, hormis la barrière de l'âge, on a, tout un chacun devrait avoir la possibilité de se préparer et de tenter, retenter autant que possible cette bourse-là, tenter ce programme-là pour l'obtenir. Et en plus de ça, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de se perfectionner en anglais. Il y a également des personnes comme toi, Christian, qui ont fait le programme et qui sont aujourd'hui, qui seront disponibles aujourd'hui pour faire un retour d'expérience. Je pense que c'est une opportunité aussi d'avoir des devanciers vers qui on peut se tourner, comme tu l'as dit, suffisamment tôt, mais pas à la veille ou à 2 jours de la date limite. Se tourner vers ces devanciers-là de façon très assidue pour pouvoir avoir en griffe le coaching qu'il faut et se donner toutes les chances. Alors Christian, au terme de notre échange, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, j'aimerais avoir ton mot de fin pour nos auditeurs et pour toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train de se projeter et qui veulent être comme toi, qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent avoir cette bourse Mandela Washington Fellowship. Quel est ton mot de fin pour eux?
Ah, enfin, je pense que tu as très bien résumé hein, ce que là je veux traduire. Et voilà, il faut pas lâcher quoi. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Donc, de la même manière qu'on dit que le royaume des cieux il appartient aux violents, c'est ce genre d'opportunité là, il faut être violent aussi. Il faut pas laisser. Pas lâcher. Faut pas lâcher parce que enfin, en persévérant. Et peut-être ceux qui auront lâché là auront perdu l'opportunité. Vous qui allez toujours persévérer, vous avez une occasion de plus. Chaque année, chaque effort que vous faites, d'être peut-être sélectionné. Voilà, donc moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont subi plusieurs échecs et qui sont peut-être découragées, qui pensent que oui, ça, c'est pas fait pour moi. Oui, enfin. Vous pouvez abandonner, si comme je l'ai dit, hein, il ne faut pas aussi enfin, essayer, enfin, si ça ne permet, si c'est plus le chemin qui permet d'accomplir vos objectifs, ça ne sert à rien d'insister. Mais s'il y a toujours, si ce programme-là peut être un moyen pour vous d'accomplir les objectifs que vous poursuivez, et je pense qu'il peut ouvrir beaucoup de choses, beaucoup de portes, continuez d'essayer, quoi, continuez d'essayer. En ne refaisant pas les mêmes erreurs, en étant plus tacticien, plus fin dans votre approche, mais ça va aller, vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
Voilà qui est super,
Et
super bien dit.
peut-être, André, si tu permets, moi je voulais
Ouais, vas-y.
également, je vous féliciter, hein, je vous féliciter, je félicite Ivoire Talent, l'André Franck, pour tout le travail que vous faites. Enfin, pour vraiment éveiller les consciences de tout un chacun, awareness sur des sujets aussi diversifiés qui sont vraiment importants. Et moi, je m'abreuve autant que je peux de tous les podcasts qui sont produits. Je vous dis,
Magnifique.
j'en ai appris pas mal, j'en ai appris vraiment, j'ai appris plein de choses en écoutant ces podcasts-là. Donc moi, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis encore merci hein, de participer justement à l'émergence hein, de cette nouvelle génération bien formée qui est aussi à l'affût de toutes les opportunités pour
Super.
les connaître et surtout pour pouvoir les saisir. Voilà. Que Dieu bénisse en tout cas ce que vous êtes en train de faire. Et
Amen.
merci de m'avoir permis de
Amen.
pouvoir également m'exprimer, hein.
Exactement. Et c'est nous qui
Merci
te disons
beaucoup,
merci
Christian.
parce que c'est vraiment un très bon retour d'expérience que tu fais là. Il y a plein de personnes qui cherchent à avoir cette bourse de Yali, ce Mandela Washington Fellowship, mais bon, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et puis, je pense qu'en écoutant ce podcast, ces personnes-là pourront avoir assez d'informations et pourront savoir où s'orienter. Vraiment, merci à toi, Christian. C'était vraiment un plaisir. Ça me fait mal même de finir cet épisode-là, mais malheureusement, nous sommes à la fin et nous vous donnons rendez-vous. La semaine prochaine pour un autre épisode aussi alléchant et aussi enrichissant que celui-ci. C'était Marc Landry et Franck Fadi pour le podcast qui va t'en. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.